à fait.
Comme à la radio.
Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien,
rien que des mots, des mots.
Aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute,
ça n'empêchera pas
de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio.
Bonsoir, bonsoir, la pleine lune dans vos oreilles et tout de suite les informels dans quelques instants, les nouvelles sur Radio Pleine Lune, Onde Femme Radio Zone, suivies par les coups de cœur de Marjolaine qui a sa besace toute pleine. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023, depuis Genève. A tout de suite pour les nouvelles.
Ah, ça marche pas.
Ne quittez pas l'écoute dans quelques instants. La suite de nos nouvelles.
Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus.
Radio Pleine Lune 3.8 MHz, Onde Femme Radio Zone, nos nouvelles. Nouvelle inculpation dans l'affaire des séquestrés de Madame Del Ponte. Nouvel épisode dans le feuilleton des inculpés de Madame Del Ponte et du ministère public fédéral. Feuilleton qui est arrivé, qui a animé l'automne avec l'incarcération pendant presque 3 mois de 4 militants suisses accusés d'être des complices de Carlos. Jeudi, une 5e personne a été inculpée, interrogée, photographiée, fichée. Il s'agit d'un militant genevois bien connu dans les milieux de la défense des droits de la personne. Monsieur R est inculpé dans le cadre de cette affaire. Il n'est pas inculpé de quelque chose de précis, mais inculpé dans le cadre. Voici une nouveauté juridique qui n'est pas sans rappeler les hauts faits de l'Inquisition. On inculpe quelqu'un et c'est au quelqu'un de trouver de quoi il est coupable. Une sorte de partage du travail. Il est vrai que Madame Del Ponte est très très occupée. R, entouré du comité de soutien aux inculpés, a donné une conférence de presse soulignant le dangereux dérapage de la justice fédérale suisse, précisant qu'une plainte allait être portée. Le comité, qui se pose de nombreuses questions sur les agissements du ministère public fédéral, s'agit-il dans ce cas d'une bavure, d'une incompétence, d'un épisode de la guerre des polices, d'une tentative de criminaliser l'opposition de gauche ou encore d'une manière de refaire un nouveau stock de fiches? Aux États-Unis, la lutte contre l'avortement met les églises devant leurs responsabilités. Les violences commises contre le personnel des cliniques pratiquant les avortements ont des répercussions dans les églises chrétiennes avec une hausse sensible de la tension. Plus de 50 000 opposants à l'avortement, ou 100 000 selon les organisateurs, ont manifesté il y a une semaine devant la Maison Blanche à Washington. On y trouvait de nombreux prêtres, religieux et religieuses qui portaient des pancartes où on pouvait lire « L'avortement est un meurtre » ou « Stopper l'Holocauste ». Le cortège s'est arrêté devant les bâtiments de la Cour suprême des États-Unis qui, par un arrêt du 22 janvier 1973, avait autorisé l'avortement. C'est dire que les récentes violences commises contre des cliniques avorteuses n'ont pas freiné le mouvement pro-life. Je vous rappelle que deux réceptionnistes ont été tués le 30 décembre dans des cliniques pratiquant l'avortement, entre autres dans une clinique du Planned Parenthood à Brooklyn et dans la région de Boston. 7 autres personnes ont été blessées. Pourtant, le drame n'a pas laissé les églises indifférentes. Plusieurs évêques catholiques ont en effet demandé ces dernières semaines un moratoire pour les manifestations anti-avortement devant les cliniques pratiquant ces avortements. Et d'autres églises, surtout dans le mode protestant, ont pris des positions plus dures encore. Ainsi, la cathédrale épiscopale anglicane St. John the Divine à New York a été le théâtre d'un rassemblement pour la paix dans les dispensaires pour femmes. Il était organisé par Planned Parenthood, propriétaire entre autres de la clinique de Boston où s'est déroulée la fusillade. En apportant aux participants le soutien de l'évêque anglican de New York, James Park Morton a affirmé « Nous sommes ici pour défendre la vie de la planète tout entière et non seulement des fœtus. La religion établie est ferme sur ce point, il faut que les médias le sachent. » La catholique Pamela Maraldo, présidente de Planned Parenthood Federation of America, a dressé un réquisitoire sévère contre les opposants à l'avortement. « Nous revivons aujourd'hui la plus grande persécution religieuse perpétrée à l'encontre des femmes depuis le XVIIe siècle », a-t-elle dit. Par ailleurs, un organisme de la Conférence nationale des évêques catholiques a fait paraître une annonce dans le New York Times où on pouvait lire « La vérité ne tue pas, l'avortement, lui, tue. La question de l'avortement doit donner lieu à un débat sans violence, mais il faut dire la vérité a conclu l'annonce. » Toujours sur cette question de l'avortement, les techniques du pro-life américain s'exportent maintenant en France où plusieurs commandos anti-avortement ont fait parler d'eux. Ainsi, la semaine dernière, l'hôpital Louis-Mourier de Colombes a été occupé par un commando anti-avortement. Une dizaine de militants ont envahi le centre d'interruption volontaire de grossesse de l'hôpital Louis-Mourier à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Les militants, parmi lesquels le docteur Xavier Dor, coutumier de ce genre d'action, ont perturbé le fonctionnement du service en récitant des prières dans les couloirs et en accusant médecins et patientes d'être des criminels. Ils ont été délogés par la police sans opposer de résistance et conduits au commissariat où ils ont été entendus. Et puis, le 25 janvier, deux commandos anti-avortement de plus de 20 personnes ont occupé les centres d'interruption volontaire de grossesse de deux hôpitaux à Lyon, l'Hôtel Dieu et la Croix-Rousse. Ils ont finalement été délogés. En France, une femme demande l'asile au nom du génocide de Tutsi. Il s'agit de Julienne, rwandaise, Tutsi, réfugiée en France, qui en juin 1994 avait vu son droit d'asile rejeté. Elle avait été invitée à quitter le territoire au moment où la France déclenchait l'opération turquoise au Rwanda. Son cas était examiné il y a quelques jours devant la commission des recours des réfugiés. Julienne avait été arrêtée à Kigali en mars 1993 au cours d'une simple réunion avec d'anciens collègues de l'entreprise, tous licenciés parce que Tutsi. Mais seule Julienne avait été emprisonnée car les autorités avaient trouvé douteux que son père et ses deux frères avaient été également arrêtés. Après un mois passé dans la cellule, Julienne avait pu se sauver. Elle était finalement arrivée en France en avril 1993. Pour le rapporteur de la commission, je cite, « Les persécutions ont duré, ne font aucun doute. D'ailleurs, il y a un certificat qui l'atteste, notant des graves traumatismes physique et psychologique nécessitant un suivi médical constant. Mais le débat juridique s'est porté sur un autre terrain. Pour donner droit au statut de réfugié, la Convention de Genève exige en temps normal, je cite, des craintes personnelles et actuelles. Que craignez-vous si vous rentrez au Rwanda alors que le FPR est arrivé au pouvoir, lui a demandé le juge. Mes parents ont été massacrés, je n'ai plus aucune nouvelle de ma famille. Avec tout ce que j'ai subi depuis 1990, je ne peux plus imaginer remettre mes pieds là-bas, a répondu la jeune fille par la voix d'une interprète. La décision a été mise en délibéré. Au Pérou, Susana contre-attaque. Après une brève accalmie, le conflit entre les Fujimori rebondit. Susana Higuchi, épouse du président Fujimori, a entrepris une grève de la faim dans les rues de Lima. Selon un quotidien espagnol, cette action a pour but de protester contre l'interdiction qui lui est faite de se présenter à l'élection présidentielle d'avril prochain. Doit-on voir là une raison, en tout cas une des raisons, au conflit armé dans lequel le Pérou s'est précipité contre l'Équateur? Ensuite, Suisse, au Conseil national, on vote le glas de la discrimination sexuelle à l'embauche. La loi sur l'égalité homme-femme va peut-être enfin passer. La Chambre du peuple a revu sa première position restrictive et se rapproche de la version plus féministe des sénateurs. Il y a une année, la discussion d'une loi définissant les modalités de ce principe de l'égalité ancrée dans la Constitution avait déchaîné les passions au Conseil national. Ce dernier avait ainsi fortement atténué la portée de cette loi sur des points principaux. Entre-temps, le Conseil des États a corrigé le tir pour redonner tout son mordant à une loi que l'on retrouve plus ou moins sous cette forme dans l'arsenal législatif de tous les pays européens. Le national est revenu à de meilleurs sentiments vis-à-vis des femmes, même s'il n'a pas complètement suivi les décisions prises par les sénateurs. Deux points ont été particulièrement contestés dans la discussion de cette loi, qui a notamment pour objet de faciliter l'application du droit à un salaire égal, tel qu'il est garanti dans la Constitution. Il s'agit d'une part de la question de l'interdiction de la discrimination sexuelle lors de l'engagement d'un ou d'une employée, et d'autre part du problème du fardeau de la preuve en cas de contestation. Ce n'est plus à la femme de montrer qu'elle est discriminée, mais à l'homme, au patron, de montrer qu'il ne la discrimine pas. Ce n'est pas passé sur la question du salaire. Cela signifie que pour toute question salariale, une employée qui s'estime discriminée devra rendre vraisemblable cet état de fait pour qu'un juge entre en matière. L'employeur devra alors prouver le contraire. Au terme de la loi, il sera désormais interdit à un employeur de discriminer quelqu'un en raison de son sexe, à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnel, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. Les milieux patronaux, emmenés par deux représentants de l'Union démocratique du Centre, s'opposaient à ce que l'embauche soit incluse dans le chapitre contenant la liste des interdictions. Ils estimaient que ce serait beaucoup trop contraignant. Enfin, la loi précise que les employeurs devront veiller à ce que leurs employés ne soient pas harcelés sexuellement, donnant d'ailleurs une définition relativement précise de ce qu'est le harcèlement sexuel et le niveau de pression limite au-delà duquel une plainte se justifie. La loi accorde en outre un droit de plainte aux organisations chargées de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes. Une chose est sûre, depuis l'automne, le Conseil des États a clairement donné le ton progressiste du débat. Et il n'a pas agi ainsi pour rien. Le 20 septembre 1994, le conseiller aux États Niklaus Küchler mettait en garde ses collègues. Refuser aux femmes la loi sur l'égalité, c'est s'assurer un échec sur l'AVS. À l'inverse, leur accorder ce texte, c'est museler celles qui luttent contre l'élévation de l'âge de la retraite dans le cadre de la 10e révision de l'AVS. Difficile en effet de demander l'égalité d'une main et un traitement de faveur de l'autre. Petite contradiction, à l'heure où justement la nouvelle loi donnerait un certain pouvoir au bureau de l'égalité pour pouvoir amener des causes devant la justice, les chambres discutent d'améliorer. Les cantons veulent faire des économies en fermant ces mêmes bureaux de l'égalité. Certains fonctionnaires ont l'art de soigner leur insulte, ainsi quelques-uns d'entre eux, interrogés dans le Jura, ne se contentent pas de traiter, comme beaucoup d'autres, le responsable du bureau de l'égalité d'hystérique. Pour eux, ce sont des brûleuses de soutien-gorge. Une manière comme une autre de signifier qu'elles ont, à l'instar des féministes qui les ont précédées, le corps libéré, mais le cerveau malade. L'objet de la querelle, c'est qu'au mois de décembre, dans le Jura, le gouvernement jurassien a accepté d'appliquer une proposition venant du bureau de l'égalité, c'est-à-dire de modifier les textes de loi en formulation non sexiste. Ça s'appelle une formulation épicène. Ils l'ont fait en fait comme un petit geste au moment où Odile Montavon quittait le gouvernement après une année passée à défendre en vain les activités du bureau de l'égalité. C'était, comme le nouveau ministre Jean-François Roth le rappelle, un geste de galanterie, comme ils sont choux. Maintenant, bien sûr, tout le monde s'excite. Cette mesure coûterait beaucoup trop cher et on parle en même temps de supprimer tout le bureau. Le cas jurassien est emblématique. Dans toute la Suisse romande, les bureaux de l'égalité sont dans la ligne de mire des gouvernements qui cherchent à améliorer l'état de santé de leur budget. Créés sur la base d'une ordonnance fédérale de 1988, les bureaux ont été ouverts les uns après les autres dans toute la Suisse. Aujourd'hui, dans un ordre différent, mais à un rythme tout aussi régulier, les bureaux sont menacés d'être supprimés. À Neuchâtel, le canton projette de l'éliminer, mais de garder sa responsable. Le Valais défend une opinion du même goût. Parmi 3000 mesures d'économie, le gouvernement s'intéresse de très près à la suppression pure et simple du bureau. Genève réfléchit, répond-on pudiquement dans l'administration. L'argument économique semble pourtant très fragile, particulièrement au vu des budgets de fonctionnement des bureaux. Dans le Jura, ils représentent 0,07% du budget du canton. Aucun d'entre eux ne reçoit une somme très supérieure à 200 000 francs. Les Bernoises disposent de même pas 100 000 francs pour année et de deux postes. Des petits chiffres qui n'ont pas empêché le gouvernement de suivre la motion de l'UDC cantonale. Le motionnaire s'inquiétait de l'effet néfaste de la libération de la femme. Le bureau est désormais chargé de protéger la famille. C'est bien. Cependant, j'aimerais juste signaler que le ton général de cet article, qui est tiré d'une nouvelle du Nouveau Quotidien, signée sous la plume de Béatrice Chade, laisse entendre que finalement, on n'a peut-être pas tout à fait tort de ranger, de mettre ces gêneuses dans le placard ou en tout cas à la rue, car finalement, elles ne sont pas très utiles. Et de citer un fonctionnaire genevois, haut fonctionnaire, malheureusement, il n'est pas nommé, mais ça fait rien. On lui octroie quand même le chapeau du cochon qui nous dit « Ces femmes multiplient les études de toutes sortes. Que faisons-nous ? Nous nous empressons de glisser ces dossiers au fond de nos tiroirs et de les oublier. » Il nous semble qu'en tout cas, le travail des journalistes serait peut-être de rappeler ces dossiers. Le droit au chômage refusé à une mère célibataire, le tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours d'une femme qui élève seule sa fille de 5 ans et ne souhaite travailler qu'à domicile. Les mères célibataires qui élèvent seules leurs enfants et souhaitent travailler à domicile n'ont pas sans condition droit au chômage. Elles ne peuvent timbrer que si la garde de leur enfant par des tiers est objectivement impossible, le tribunal fédéral des assurances l'a précisé dans un arrêt. Après avoir été licenciée et perdu un emploi qu'elle exerçait à domicile, cette mère n'avait pas obtenu le droit de toucher l'assurance chômage. Elle n'avait pas accepté de prendre n'importe quel emploi. Elle ne voulait envisager qu'un travail à 30% de manière qu'elle puisse adapter ses horaires à ceux de la crèche. Par un arrêt, le tribunal fédéral confirme que la recourante n'est pas apte au placement. Il précise que le droit au chômage pour les travailleurs à domicile n'est pas inconditionnel. En particulier, les mères de famille qui souhaitent travailler chez elles ne peuvent toucher les prestations de l'assurance chômage que si une activité à l'extérieur est objectivement impossible. En Suisse, quelques initiatives prises pour construire des parkings sur mesure pour les femmes. 84% des femmes, selon une étude de l'Institut de géographie de l'Université de Berne, ont peur la nuit. Un tiers des femmes interrogées affirment même avoir été harcelées à plusieurs reprises. Traitement préventif contre l'angoisse nocturne, la délimitation des lieux publics, à le vent en poupe du côté alémanique. Certains mouvements féministes alémaniques justifient cette délimitation par le manque de liberté de mouvement chez les femmes. Liberté de mouvement sans peur, sans risque, n'importe où à n'importe, et n'importe quand, tel reste leur objectif principal. En Romandie, avec un label de démarcation réservé pour vous, madame, Doris Vocat, exploitante de trois parkings vaudois, a donc innové les premières et uniques places réservées aux femmes dans des garages en Suisse romande. Ces motifs rassuraient la clientèle féminine par des places bien éclairées, proches de la sortie. À Berne, 800 000 francs viennent d'être investis dans deux parkings du centre-ville dans le but de renforcer la sécurité dans les garages. Plusieurs dizaines de places sont installées, nur für Frauen. Sécurité oblige, plusieurs villes suisses alémaniques vont même jusqu'à proposer des concepts architecturaux davantage féminins conçus dans le but d'accroître la sécurité des femmes. En effet, l'organisation Planification et Architecture par et pour les femmes en Suisse, regroupant plusieurs comités de femmes architectes, promeut une architecture urbaine plus sécurisante, espace ouvert, dépourvu de piliers, fortement éclairés. À Soleure, licenciement d'un fonctionnaire harceleur. Le chef du contrôle des finances du canton de Soleure a été licencié avec effet à fin 95 pour harcèlement sexuel envers deux collaboratrices. Son statut de chef lui a été retiré. D'ici son licenciement, à la fin de l'année, ce père de famille de 40 ans occupera un emploi sans compétences hiérarchiques, on espère, sans trop de collègues féminins. Il n'a pas encore décidé s'il fera recours auprès du tribunal administratif. Ce cas n'est que la pointe de l'iceberg en matière de harcèlement sexuel. C'est une première dans la fonction publique en Suisse, mais certainement pas la dernière, a relevé Christine Heuss, juriste et membre de la commission d'enquête. Cette affaire remonte à août dernier. Deux employés du contrôle des finances ont publiquement accusé leur chef de les harceler sexuellement sur leur lieu de travail. Le haut fonctionnaire avait alors lui-même demandé qu'une enquête soit ouverte. Selon la présidente de la commission d'enquête, le fonctionnaire a fortement importuné les deux femmes sur leur lieu de travail, les a enlacées, embrassées, glissé ses mains sous leurs vêtements. Il a en outre eu des relations sexuelles avec une des employées, mais hors du lieu de travail. On a d'ailleurs exclu le viol de la jeune femme. Par ailleurs, l'homme a clairement abusé de sa position hiérarchique. Il a avantagé les femmes, délaissé ses devoirs envers ses autres collaborateurs. Les deux femmes ont quitté leur travail à la suite de ces incidents. Elles ont retrouvé un emploi depuis. La plus jeune des deux a souffert de cette situation et a eu besoin d'une aide psychologique. Toujours sur le problème du harcèlement sexuel, à Genève, deux médiatrices ont été nommées pour les cas de harcèlement dans la fonction publique. Il s'agit de l'avocate Constance Gilliot de la Valla et de la psychiatre Jacqueline Lalive-Aubert, qui sont désormais à disposition des fonctionnaires des deux sexes qui estiment être victimes de harcèlement sexuel. Leur désignation s'est faite en application du nouveau règlement adopté en matière de harcèlement sexuel dans les établissements dépendants de l'État de Genève. La procédure ainsi mise en place se caractérise par sa souplesse. Les personnes estimant avoir à se plaindre de harcèlement pourront, sous le sceau du secret, s'adresser à l'une des médiatrices, seule ou avec l'autre. Elle pourra entreprendre toutes les démarches informelles qu'elle estime propres à régler la situation. Contact avec la personne mise en cause, voire avec d'autres personnes, etc. Mis sur pied d'un accord, si c'est possible. Le harcèlement sexuel, on le sait, est désormais une infraction pénale, punie sur plainte, mais cela demeure un comportement bien difficile à prouver, d'où l'intérêt d'une pratique, d'une solution souple et pragmatique. À Genève, le syndicat Sans Frontières repart à l'attaque au sujet d'une employée de mission qui a entamé une grève de la faim. Les autres syndicats se sont unis pour une fois à cette protestation. Il s'agit de Cécilia, licenciée par un diplomate suédois à la suite d'un ennui de santé. Elle veut entamer une grève de la faim pour faire reconnaître son droit à une rente invalidité. La détresse de cette femme a poussé les syndicats genevois à s'unir pour exprimer leur ras-le-bol face aux conditions de travail précaires dont sont victimes certaines employés des missions. Le combat mené depuis 4 ans par le syndicat Sans Frontières reçoit désormais le soutien actif des organisations de défense des travailleurs. Âgée de 51 ans, mère de 2 enfants, l'employée ne peut plus travailler en raison d'une hernie discale. Sans revenu depuis 7 mois, elle vit grâce au soutien financier du syndicat. Licenciée après 15 ans de service, Cécilie a tenté de trouver une solution à l'amiable en contactant le ministère des Affaires étrangères suédois sans succès. Pour le président du syndicat Sans Frontières, Louis Cid, il faut une convention collective qui assure aux employés des missions des droits égaux à ceux des travailleurs suisses ainsi qu'une protection sociale. Les directives du département fédéral des affaires étrangères proposent un maximum de 50 heures hebdomadaires et un salaire mensuel de 1200 à 1340 francs. On les estime inacceptables. Selon une étude d'un psychologue, les femmes écrivains auraient certains problèmes psychologiques. Arnold Ludwig du Centre médical de l'Université de Kentucky a mené une étude sur les femmes écrivains. Il révèle qu'un éventail de psychopathologies et le fait d'avoir subi des agressions sexuelles pendant l'enfance semble indissociable de la créativité. Les femmes écrivains sont presque 2 fois plus nombreuses que les non-écrivains à souffrir d'une forme ou d'une autre de désordre mental. Mais selon le psychologue, les résultats sont différents de ceux des hommes. Nombreuses sont les femmes écrivains à avoir subi des agressions physiques ou sexuelles, à souffrir de troubles de la conduite alimentaire. Beaucoup font usage de stupéfiants, mais elles ne sont pas alcooliques, ce qui n'est pas le cas des hommes écrivains, car 30% des hommes écrivains sont alcooliques. Il semble que le fait d'être un peu bizarre n'est pas nécessairement pousse nécessairement à la créativité, mais c'est plutôt l'état général de malaise et de tension qui peut entraîner une activité créatrice chez celles qui en ont déjà cette tendance. Excusez-moi, j'ai des problèmes avec les chaussettes de l'archiduchesse. À Attention les bébés, les tétines sont dangereuses. Un composant chimique présent dans les caoutchoucs des tétines, le MBT, rendrait les bébés allergiques. Menace qui concerne aussi les gants, latex et les préservatifs. Les bébés vivent dangereusement. Les purées de légumes vendues à bas prix sont pleines d'insecticides. Les pâtes à meubler ont des métaux lourds. Les habits sont souvent couverts de teintures cancérigènes. Et le lait maternel, paraît-il, est plein de pesticides. Maintenant, c'est les sucettes. C'est un magazine allemand écologique, EcoTest, qui vient de révéler qu'ils peuvent avaler ces substances toxiques grâce aux tétines. 20 tétines ont été testées. 16 d'entre elles contiennent ce produit, le MBT, une substance que les médecins classent parmi les principaux déclencheurs d'allergie. Mais la plupart des fabrications nouvelles tendent à diminuer la quantité de MBT. Il faut faire attention. Plus la date de fabrication est ancienne, plus la sucette est polluée. Le problème existe également avec les préservatifs et les gants de ménage. 20% du personnel hospitalier des services de chirurgie serait allergique au caoutchouc. Le groupe F Information nous envoie une information. Elle nous écrit « La circoncision féminine a été légalisée en Égypte à condition qu'elle soit pratiquée par des médecins professionnels. » F Information réagit en envoyant une lettre à l'ambassade d'Égypte à Berne qui demande instamment le retrait de ce décret ministériel qui légalise la circoncision et que les gouvernements et les ministères de la Santé se conforment à leur déclaration pendant et après la conférence internationale sur la population et le développement concernant le bannissement de cette circoncision et déclare cette pratique comme étant violente, nuisible à la santé des jeunes filles. Que des mesures soient prises afin de punir les personnes qui pratiquent la circoncision des femmes. Si vous voulez réagir à votre tour, vous pouvez écrire à l'ambassade de la République arabe d'Égypte, 61 Elfenau Weg, 3006 Berne. Je répète, ambassade de la République arabe d'Égypte, 61 Elfenau Weg, 3006 Berne. Voilà, c'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. J'aimerais juste vous signaler que juste maintenant, le rassemblement des femmes en noir contre la guerre en Yougoslavie se tient dans la zone piétonne du Mont-Blanc. Vous pouvez vite y courir encore. Tout de suite, dans quelques instants, les coups de cœur de Marjolaine. Bye bye.
Alors, en attendant le memento de Marjolaine, il nous reste encore quelques instants. Nous les passerons avec un groupe qui est le Women in Jazz. Thank you.
Thank you.